Mon cher président et ami, c'est moi qui suis très honoré et très heureux d'avoir à prendre la parole ce soir devant cet auditoire. Et Dieu complice de longtemps dans bien des actions communes, je vous remercie très vivement de m'en avoir fourni la très agréable occasion. Et de la recherche scientifique à l'échelle européenne, oui, au premier rapport, mais semblait que je n'allais peut-être avoir à dire que du négatif, et bien sûr, cela ne m'enchantait pas. Et cependant, j'ai été amené à creuser un peu ce sujet auquel j'avais déjà eu l'occasion de réfléchir, cependant. Et il me paraît que vous l'avez choisi à très bon escient et que il est tout de même un des grands thèmes dont nous devons nous préoccuper à l'heure actuelle. Au fond, vous l'avez choisi pourquoi, ou plus exactement, nous nous préoccupons tous de savoir ce que pourrait nous apporter une recherche scientifique faite à l'échelle européenne, étendue à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce que nous avons le sentiment que l'Europe est actuellement dépassée dans ce domaine par deux nations, les États-Unis d'Amérique, et que nous ressentons très vivement cette espèce de déclin de l'Europe, ce retard de l'Europe, d'autant plus vivement que les hommes de ma génération ont encore le sentiment très vif d'un passé très récent, d'un passé très récent, d'un passé très récent, d'un passé très récent, spécifique théorie fondamentale, sentiment très vif d'un passé très récent où l'Europe était incontestablement à la tête des nations. Dans le domaine de la recherche scientifique, aussi bien la recherche scientifique théorique fondamentale que dans les applications techniques qui en découlent. Il n'y a pas besoin de remonter très longtemps, tout à plus une trentaine d'années, pour retrouver une situation pareille dans la jeunesse. Les États-Unis d'Amérique étaient une nation presque exclusivement agricole. Avant 14, les automobiles qui circulaient à New York étaient des taxis Renault venus de Paris, les mêmes taxis que ceux qui gagnèrent la bataille de la Marne. Il n'y avait pas de voiture automobile américaine. Et je me souviens que pendant la guerre 14-18, j'ai eu à instruire des unités américaines faisant partie de ce million d'hommes que l'Amérique nous a envoyés pour nous aider à supporter le choc de cette guerre. Ils sont venus habillés, certes, en militaire, mais absolument les mains nues, n'ayant aucun armement, absolument aucun, car l'Amérique ne savait pas en faire, n'avait pas l'outillage pour en faire. Les avions, tant que nous avons vendu armés complètement, c'est l'industrie française, anglaise, qui ont armé ces hommes. C'était un pays, visiblement, les hommes avec lesquels j'étais en contact étaient des agriculteurs de gros bourgs américains qui ne comprenaient aucun ouvrier qualifié. C'était ce pays que nous considérons aujourd'hui, à 40 ans de distance, comme à la pointe du progrès technique, du progrès scientifique qui l'accompagne, ou plus exactement qui le provoque et qui le nourrit. Bien, était il y a une quarantaine d'années encore très loin de ce stade. Quant à la Russie, certes, si à l'époque dont je parle, elle avait d'éminents savants dans la Russie d'Europe, justement, d'éminents savants, des mathématiciens, des physiciens, des chimistes de très grande imagination et de très grande valeur scientifique, nous savons aussi qu'à cette même époque, tout ce qui était technique lui venait d'Europe. Tandis que maintenant, eh bien, nous constatons que la situation est inversée. manifestement inversé sur le plan des réalisations techniques. Chacun le constate chaque jour,
eux aussi.
Dans une mesure assez sensible sur le plan de la recherche fondamentale, les prix Nobel maintenant ne sont plus tellement européens, ils sont beaucoup plus souvent américains. Ne sont pas.
Un lancement en Amérique d'engins d'observation, de recherche scientifique qui avait été préparé par des Français. On peut dire aussi un pays européen va faire l'effort pour son compte de créer les fusées porteuses, les fusées de lancement. Mais quand on regardait ça, on s'aperçoit que ça n'était à l'échelle d'aucun des pays européens. L'effort était trop grand, l'effort financier était beaucoup trop grand. Et on aurait pu dire, eh bien, alors là, on va faire un effort concentré de tous les pays européens adhérents, et ils sont assez nombreux, ceux qui sont adhérents au CERS, eh bien, en commun, alors, en mettant tout, elle s'est aperçue que ça lui coûtait horriblement cher, beaucoup trop cher, qu'elle ne pouvait pas aller au bout. Alors, voyant naître ce désir commun européen de tout de même d'explorer l'espace, elle a offert directement au gouvernement français de s'associer avec lui pour mettre au point la fusée Bluestrip. Le gouvernement français a finalement accepté de coopérer, mais enfin dans le cadre de cette organisation commune qui était prévue. Alors l'Angleterre fera le premier étage, qu'elle a déjà pas mal travaillé. La France s'est réservée de faire le deuxième étage. On a confié à l'Allemagne le soin de faire le troisième étage. Et on a confié à l'Italie, à la Hollande et aux Belges, en gros, le soin de faire les aménagements électroniques qui relieront ces trois états.